alone. Boop, boop, be doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Yves Charmet. Bonjour Yves.
Bonjour Claire.
Avec qui je vais parler dans un instant de son livre « Prose au pluriel » du Fils aux éditions de la Table Ronde. Mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos pour vous dire que demain, vendredi 8 avril à 18h30, à la Casa de España, 85 Avenue des Minimes à Toulouse, une rencontre avec Didier Damestois, qui est le petit-fils d'Alvaro de Orioles, et qui présentera son livre « Les Feux du Pertus, journal de l'exode espagnol » aux éditions Priva. Donc c'est demain à 18h30 à la Casa de España. Et puis samedi prochain, le 16 avril, je vous le dis un petit peu en avance parce que... Ben voilà, parce que le samedi 16 avril de 10h30 à 12h30 à la médiathèque José Cabanis, au petit auditorium qui se situe au troisième étage, eh bien vous aurez le rendez-vous mensuel de Blandine Poney, l'atelier de lecture de poésie. Donc cet atelier, je le rappelle, est gratuit. Il est par contre sur réservation pour une question de place disponible. Donc vous pouvez téléphoner au 05 62 27 45 69 et pour réserver, donc c'est samedi 16 avril de 10h30 à 12h30. Et puis je voulais juste rajouter une petite chose et après ça sera fini pour les infos. Oui, je disais, je vous l'annonce aujourd'hui, mais si, il y a une raison, parce que le week-end prochain, exactement le 15, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17, eh bien il y aura les douzièmes rencontres du livre et du vin à Balma. Et donc voilà, il faudra choisir entre une lecture de poésie à la médiathèque le samedi matin ou alors aller à Balma rencontrer des auteurs et des livres. Voilà. Mais enfin bon, vous aurez encore le dimanche et on en parlera de toute façon la semaine prochaine avec Jean-Antoine Loiseau qui viendra comme chaque année nous parler du programme de ces 12e rencontres.
Page à page, Claire Ambille.
Alors maintenant, je peux me tourner vers mon invité, donc Yves Charmet. Alors on devait se rencontrer au mois de décembre et puis voilà, ma fille et vous êtes tombée malade. Et donc l'émission n'a pas pu se faire, elle se fait aujourd'hui. Donc c'est avec grand plaisir pour moi de
vous
recevoir.
En plus, il fait bleu, c'est le premier jour de bleu.
Et ben voilà, donc bleu, vous êtes au micro jaune, couleur soleil, donc tout va bien. Yves Charmet, alors on fait un petit coucou à Sandrine peut-être, hein, puisque c'est elle qui nous a présenté, hein, on va dire. Hein. Voilà, donc coucou Sandrine, hein, qui est sculptrice et peintre, artiste peintre à Toulouse.
Et qui anime l'atelier d'art plastique à Super.
Ah oui, c'est vrai, là où vous travaillez vous-même.
Il arrive que je travaille. Oui.
Ah, d'accord. De temps en temps, entre deux balades.
Non, ne complique pas ma vie professionnelle, dès le début de l'émission.
Alors, Yves Charmet, vous êtes né à Nevers.
Hein? Oui, je confirme toutes les infos au fur et à mesure.
Comme vous voulez. Donc, vous êtes né à Nevers, voilà, c'est une affirmation.
Je travaille de temps en temps et je suis né à Nevers. Continuons.
Vous avez vécu et étudié à Paris et à l'école, entre autres à l'école normale, c'est ça, de la rue d'Ulme.
De la rue d'Ulme.
Parce que ça a son importance pour la suite, parce que vous avez rencontré des personnages, on va dire, là-bas. Et des études de lettres modernes, hein, donc voilà, agrégation et doctorat, hein, voilà, des études de lettres modernes, donc de la littérature, avec une thèse notamment d'ailleurs sur Baudelaire, écrivain du visuel. Mmh. Baudelaire, votre poète, un de vos poètes préférés. Il y a Gérard de Nerval aussi.
Plusieurs. C'est pas mal.
C'est pas mal. Alors actuellement, donc comme vous le disiez là en début d'émission, vous travaillez donc à Toulouse. Vous êtes professeur responsable de l'unité art et culture de la formation Supaéro, c'est ça?
Voilà.
Je ne me trompe pas.
Voilà. Des enseignements créés en 1996 à Toulouse. C'est la raison de mon arrivée dans cette ville.
D'accord. Voilà. Ça a été créé exprès pour vous.
Non, non, ce poste a été créé et c'est moi qui l'ai eu.
Ah d'accord, c'est vous qui l'avez créé. Il n'a pas créé, été créé juste exprès pour vous. D'accord. Ouais. Et ça consiste en quoi, donc, votre enseignement
bah, c'est un espace ouvert pour des élèves ingénieurs, pour de façon buissonnière, aller du côté des arts, des autres pensées, des sciences qu'on a pu aimer autrefois, des humanités. Voilà.
D'accord.
Nous revenons d'un week-end avec 34 élèves sur les traces de Matisse, Picasso, Anis, Saint-Paul de Vence.
Ah, c'est chouette.
C'est bien. C'est
ah
bien.
Oui,
c'est
oui,
bien. J'espère
oui.
que c'est bien pour eux aussi, mais c'est bien pour moi.
C'est agréable. c'est un métier agréable. Vous avez un métier passionnant, finalement.
Passionnant. C'est parfois, parfois, c'est compliqué, mais c'est très, très bien.
Oui, oui, oui. Voilà, vous êtes content de vous lever le matin pour y aller.
Pour aller au musée à Nice,
c'est important.
Oui, absolument.
Alors justement, et Sandrine donc donne des fois des, enfin offre des fois ces ateliers.
On fera une seconde émission sur l'enseignement à super-héros, mais il y a des ateliers, enfin ce que j'appelle les ateliers libres en plus des séminaires obligatoires. Et je tiens à ce que les grands arts soient représentés. Donc il y a toujours eu un atelier d'art plastique que vient de reprendre avec talent Sandrine.
Oui. Voilà. Sandrine a beaucoup de talent. Et donc, elle fait la sculpture.
Un talent
aussi.
Avec les élèves. Voilà, oui, ils sont.
Ils mettent
la main à la pâte
de la
sculpture, des couleurs, voilà, toutes sortes de choses.
Et puis j'imagine que voilà, elle a un bon contact avec les étudiants.
Tout à fait.
Dynamique, sympathique, Sandrine.
Talent, c'est ça que je voulais dire. Voilà, talent et générosité.
Tout à fait. Ça la caractérise tout à fait parfaitement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Yves. Alors l'écriture, elle a toujours été dans votre vie, depuis que vous êtes tout petit, on va dire. Donc des livres, vous en avez écrit, on va les voir, mais vous avez écrit de nombreux articles, des colloques, des conférences, des publications, etc. Hein. L'écriture fait partie intégrante de votre vie.
Des machins comme ça, oui.
Alors dans les livres, on va dire, donc aujourd'hui nous allons parler donc de Prose du Fils, édité à la Table Ronde et réédité d'ailleurs en 2002, hein. C'est un livre qui a été réédité.
Donc, c'est le premier livre, donc c'est le livre fondateur.
Voilà, fondateur.
Celui qui a décidé du reste, en fait. Qui a un peu décidé tout seul qu'il était un livre, puisque je ne le savais pas en écrivant beaucoup des pages qui sont finalement dans ce livre. Et puis quand il a été épuisé, ce qui est un petit miracle éditorial, j'ai voulu le... Enfin, je l'ai retravaillé. Donc c'est une édition revue et corrigée qui est dans la collection de poche là, que vous avez
sous
les yeux, voilà, la collection La Petite Vermillon. Et c'est donc une version plus courte, plus dense, et puis ponctuée plus courte comme... De plus en plus, le souffle de l'écriture est très très court, donc c'est très ponctué.
Très cadencé.
Podalides prétendait, du temps qu'on travaillait ensemble, qu'il préférait lire les premières versions où c'était plus fluide, etc. Puis de plus en plus, c'est une boxe plus rapprochée pour moi.
Ah oui, ouais, c'est un combat.
Voilà,
absolument. Un combat.
Le temps d'un coup, absolument.
Alors, donc Prose du Fils, donc le premier livre, hein, comme vous l'avez dit, le livre fondateur. Hein, de... Ensuite, il y a eu Rien la vie. C'était en 94, à la Table Ronde aussi d'ailleurs.
Oui, jusque-là, nous sommes restés fidèles.
Après, il y a Cœur furieux, en 98 également, Table Ronde. Il y a ensuite Mon amour, en 2001, Table Ronde également. Suivi de Petite chambre, en 2005, Table Ronde. Et puis Lettre à Juan Bautista, en 2007.
Il n'y a pas de bonne façon de prononcer le nom de ce torero.
Oui, c'est pour ça que je suis en train de poser la question en même temps.
C'est une des questions du livre, comment ça s'appelle un torero, donc il change de nom tout le temps, Juan Bautista, Bautista.
À l'espagnol, ça fait Bautista,
absolument.
De toute façon. Donc voilà,
bref, il s'appelle Jean-Baptiste Jalabert, comme tout le monde en français, ce qui est plus simple.
Oui, effectivement. Donc un torero, l'histoire d'un torero.
Oui, enfin un portrait de torero, une approche de torero. Et peut-être moi en miroir dans ce torero, voilà.
Oui.
Un torero mutique.
Mutique,
quasiment rien, les toreros.
D'accord.
Maintenant, je travaille sur un autre qui parle beaucoup.
Oui,
vous actuellement Julien Lescaric, un torero du sud-ouest, on peut dire, le torero bordelais, et qui lui parle tout le temps, donc j'ai encore plus de mal à faire le livre, parce qu'il me dit plein de choses. Du coup, au moins, Jean-Baptiste fallait faire parler son silence.
Oui, parce que là,
fond,
ça fait beaucoup de choses.
Tandis que là, c'est tellement bien, Julien, tout ce qu'il me raconte, que je le note pas.
Et c'est un livre que vous allez sortir
oui, enfin, il faudrait.
Normalement,
c'est Au diable vos vers, ce sera pour les 10 ans de l'alternative de Julien Lescaric, donc l'an prochain, donc il faudrait que j'en finisse.
Oui, bon, vous avez encore un peu de temps.
Oui, ce qui pour les gens comme moi, c'est bien de croire qu'on a encore un peu de temps.
Alors, Prose du Fils, donc, ça a été un livre qui a été mise en voie à plusieurs reprises et dans divers endroits d'ailleurs, hein, par ainsi que d'autres textes, hein, et par de nombreux comédiens.
Hein. Donc essentiellement Denis Podalydès et Jacques Bonafé. Voilà.
Tout à fait.
C'est une période déjà lointaine de ma vie, mais c'était beau.
Un qui a fait, on va le voir, la préface de votre livre et l'autre qui a fait la postface. Donc voilà, les deux étaient sont dans votre livre, l'encadre quelque part, hein, voilà. Et donc ce livre, Prose du Fils, a été aussi l'objet de nombreuses émissions d'ailleurs, hein, radiophoniques, sur France Culture et Sud Radio notamment, hein, entre autres. Et puis ainsi que d'autres de vos textes, hein, bien sûr, hein, vous êtes...
Sud Radio, c'était un écrivain qui j'aimais beaucoup, qui est mort maintenant, qui faisait cette émission.
Ah oui?
Oui. J'oublie son nom à l'instant, mais ça me reviendra.
Mais il ne me semblait pas qu'il faisait
chez
de...
Priva.
Ah oui, chez Priva, ouais. D'accord.
Son nom m'échappe à l'instant. Mais
il vous reviendra peut-être avant la fin.
Non, mais je me souviens justement de ce que vous le dites. C'est quelqu'un de très généreux et très attentif aux autres, ce qui dans le milieu n'est pas... Il faut souligner ceux qui le sont.
Oui, c'est rare et donc c'est précieux.
Où qu'il était.
D'accord. Donc voilà, donc des émissions également, et donc qui ont honoré aussi de nombreux textes, hein, pas seulement Prose du Fils.
France Culture, c'était Alain Weinstein, voilà, qui est mon seul lecteur dans le monde de cette radio-là, très fidèle aussi. C'est un grand.
Ah bah, je crois que quand on a lu Prose du Fils, on ne peut que vous être fidèle, Yves. On l'est ou on l'est pas, enfin je veux dire, hein, voilà, c'est un livre qui ne laisse pas indifférent, hein, je vais le dire, je vais le redire au cours de l'émission, donc forcément on en ressort avec quelque chose, hein, soit on aime, soit on n'aime pas, mais on a forcément on éprouve forcément quelque chose. Alors, Prose du Fils d'Yves Charnay, édition de la Table Ronde. Alors voilà, comme je le disais à l'instant, donc c'est un livre étonnant que moi personnellement je n'ai pas l'habitude, mais qui m'a beaucoup plu parce qu'il m'a pas laissé indifférente. Et c'est à la fois, on peut dire, ce sont des textes, hein, c'est de la prose poétique, enfin des textes. C'est pas évident, il est inclassable, hein, c'est comme on le disait avant l'émission, c'est difficile de le qualifier, de lui mettre une étiquette, hein, ce livre, hein, sont des textes issus de la matière autobiographique, votre matière autobiographique, Yves.
C'est très bien, continuez, parce que ça me va très bien.
Bon, je continue, alors j'ai l'approbation de l'auteur. Alors les mots, et les mots ont de l'importance, hein, pour vous, Yves, ils sont ciselés, hein, c'est vraiment, ils ont une justesse et ils donnent aussi des images. Quand on lit les mots, vos phrases, on fabrique des images dans notre cerveau et moi j'aime bien ce style où on fabrique des images. Donc c'est pour ça que ça m'a plu aussi. Et c'est donc, comme je
le
disais...
C'est ça le visuel dont je parlais.
Oui, bah oui,
les images intérieures,
donc vous...
les images qu'on voit par l'intérieur, par les mots.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc en fait, vous avez repris un peu ce que faisait
Baudelaire.
Je ne sais
pas, mais ce que vous dites correspond tout à fait, en tout cas, à des choses. En tout cas, le visuel, c'est ça, c'est des images.
D'accord.
Y compris donc les souvenirs, au fond.
Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de souvenirs.
Oui, les souvenirs ou les images de mémoire, ce sont des choses... fantôme.
Non, puis des couleurs, ça fait des sensations. Enfin, je veux dire que ça peut être une couleur, une odeur, une sensation qu'on ressent à la lecture. Ça, c'est quand même un talent, hein. Faut quand
gentil.
Même le dire. Ah, bah, si.
C'est le job, c'est gentil.
Non,
le job pour moi de le faire.
Ah, d'accord.
Le job de frotter vous appeliez la matière autobiographique à la matière de langue.
Tout à fait.
Jusqu'à ce que quelque chose, jusqu'à ce qu'une étincelle se produise.
Et oui, mais des fois, c'est pas obligé qu'elle se fasse pas. Hein,
ouais,
voilà,
je sais bien.
Tout à fait.
Qui dites-vous?
Alors, c'est à la fois beau et violent, hein, donc dans l'écriture, hein, moi je trouve, dans le style, c'est. Et moi je dirais, c'est finalement comme la vie, hein, un peu aussi, hein, parce que la vie c'est ça aussi, c'est beau, c'est violent, c'est difficile, douloureux parfois.
C'est peut-être comme ça que j'ai fini par rencontrer des toreros, parce qu'ils font du beau avec du violent.
Oui, c'est vrai, tout
comme
à
la
fait.
Vie, comme
la violence,
fait la vie,
et
comme
la
fait
beauté,
la vie.
Oui, tout à fait. Et comme fait aussi Prose du Fils, hein. Alors, il y a deux parties à ce livre. La première, c'est Cette enfance, ce qu'elle fut. Et la deuxième, c'est « Ma naissance, ton suicide ». Ce sont des titres... Alors, en préambule, comme je le disais à l'instant, il y a une préface écrite par Denis Podalydès, hein, qui est comédien et acteur, hein, tout le monde le sait, j'imagine. Alors, qui raconte aussi comment vous vous êtes connu, comment il vous a connu, hein, par un ami commun, donc justement dans cette fameuse rue d'Ulm, à l'école normale, hein, sur... et puis enfin au l'internat du lycée Henri IV, hein, voilà, à Paris. Et puis il raconte aussi ce qui l'a marqué, hein, chez vous et en vous. Alors je le cite parce que je trouve que c'est tout à fait, je l'ai ressenti aussi à la lecture, cette énergie de l'ennui et l'incurable mélancolie. Parce que c'est vrai que bon, ce livre, il y a de la douleur, hein, aussi dedans, faut, on va le dire. Hein, c'est ça qui l'a marqué chez vous. C'est, voilà, bon, comme vous dites, c'était vos années d'étudiant.
De formation, comme on dit. Puis, oui, c'est la matière du livre, de toute façon. Et puis, là, oui. C'est le soissage au ma douleur, comme disait Baudelaire.
Hein. Ah oui, voilà.
Tiens-toi plus tranquille, le côté intenable, voilà, des choses, c'est sur ça.
Donc, il évoque beaucoup de choses, hein, Denis Podalydès, dans cette préface. Mais bon, on va peut-être pas tout le dire parce que je vois que l'émission passe toujours trop vite. Alors, je veux juste dire que la postface, c'est l'autre comédien qui l'a faite. Donc, c'est... comment ça s'appelle, Bonafé, oui. C'est quoi son prénom,
Jacques.
J'ai un problème
Jacques.
Avec les prénoms. Voilà, Jacques. J'espère qu'il m'excusera si jamais il m'entend, Jacques Bonafé. Donc voilà, il a fait la postface de votre livre. Et donc, entre les deux, donc on va parler donc de proprement dit, de ces fragments, de ces textes, de ces éclats de vie, hein, finalement, qui sont mis un peu... bout à bout, hein, je dirais, qui raconte quand même une histoire, votre histoire.
Bout à bout, c'est un travail de mosaïque, en tout cas.
De mosaïque, oui, tout à fait.
De vitrail, dans le meilleur des cas, et de mosaïque et de puzzle incomplet.
Tout à fait. Voilà. Parce que, bon, vous le dites d'ailleurs, je crois, dans ce livre, vous avez mis un an, vous avez mis 10 ans à l'écrire, ce livre, déjà.
Je me suis rendu compte après coup qu'il y avait quand c'est sorti, quoi, quand c'est matérialisé un livre, surtout la première fois, quand ça prend forme, ça devient un autre objet qu'on regarde comme si on ne le connaissait pas. Et on ne le connaît plus d'ailleurs, un livre qu'on a fait. J'ai vu en me souvenant qu'il y avait des phrases dont certaines étaient très anciennes, donc que je pouvais dater, puisque par exemple, qui dataient même d'avant que je sois à Paris, c'est beaucoup de choses de notes comme ça prises par le très jeune homme que j'étais. Et certaines phrases, donc je pouvais les dater, je savais qu'elles étaient de telles années, donc elles avaient 10 ans avant la fin du livre. Voilà.
D'accord.
Donc il y a une amplitude d'écriture de.
Mais 10 ans, c'est quand même pas mal. Hein,
puisque beaucoup de choses ignoraient que tout ça deviendrait un livre, vraiment.
Et après, donc, il vous a fallu un an de plus pour vraiment le fignoler, on va dire.
Il y a eu des étapes, notamment essentiellement, déjà des parutions en revue qui m'ont aidé à prendre conscience à l'époque de ce que c'était des petites unités, et puis que ces petites unités pourraient finir par se rassembler en un livre. Voilà, c'est comme ça. Donc, pas des chapitres, mais des espèces d'articulations, d'arrangements de prose, comme ça. Qui ont fait des séries pour différentes revues de poésie et qui ont amené cette dynamique avec les lectures à voix haute des comédiens, au terme de laquelle il y a eu livre. Voilà.
Alors dans cette première partie, donc, vous parlez de votre enfance à Nevers avec votre maman et avec l'absence de votre père.
Voilà, c'était les deux partenaires.
Voilà, maman
la
et puis l'absence.
Et l'absent.
Voilà,
ouais.
Et l'absence, voilà. Et on va apprendre d'ailleurs à la lecture les raisons de cette absence paternelle. Hein. Et puis, donc, je dirais, c'est un peu un monologue, hein, monologue écrit avec un style, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, étonnant et vivant et à la fois aussi douloureux, quoi, hein, qui est du ressenti vraiment à l'état pur de la part de l'auteur, c'est-à-dire vous, Yves Charnay. Et puis, vous avez parlé aussi de cet amour des livres, hein, d'ailleurs, que vous partagez avec votre maman. La lecture a toujours été importante dans votre vie depuis tout petit.
C'est la fin de beaucoup de choses. Historiquement, je me rends compte dans ce livre, c'est un peu une très grande fin de cycle, mais on ne le sait pas. Personne ne savait, quand ma mère manipulait des livres, que c'était les derniers livres qui auraient eu un autre espace pour le livre, ce qui est le cas aujourd'hui.
Oui.
Donc c'est déjà, ça appartient à un autre temps déjà.
Le
don du livre par les mains de la mère dans une petite bibliothèque, etc. Alors qu'il n'y avait vraiment aucun écran, aucun Google. La césure s'est faite dans nos vies de ça.
Hein. Tout à fait.
Voilà. Donc, en lisant l'autre jour, j'étais à la fac à Bordeaux, il y a 15 jours, interrogé justement par des élèves sur Prose du Fils, puis j'avais totalement oublié tout. Et que tout ça datait incroyablement,
y compris
d'un autre temps.
C'est une enfance
des années 60. Évidemment, par rapport...
Et c'est pas si vieux quand on regarde.
Non, mais on a changé de monde entre-temps.
Oui,
voilà.
Oui,
comme les gens avant Gutenberg et après. Si moi, je continue à croire au livre papier.
Il
n'empêche que ce mode de transmission du livre ne peut plus exister tel quel aujourd'hui.
Voilà. Alors, vous évoquez aussi des chansons hein, dans ces fragments, hein, dans La mémoire en chantant notamment, alors, qui se rapportent à des souvenirs d'enfance, là aussi avec des gens de la gaieté, hein, de la musique, les chansons qui rapprochent les gens, on chante tous en chœur, ce sont des bons souvenirs, il y a des bons souvenirs dans tout ça.
La chanson est un mode mineur de la poésie, mais totalement, mais qui rend la poésie intime à ceux qui l'entendent. Donc j'ai passé ma, enfin je suis totalement immergé de chansons françaises. Et je veux pas ne pas dire à Toulouse que c'est comme ça que j'ai rencontré Claude Nougaro, qui est un très grand ami et qui est celui qui est un de ceux qui a incarné justement ce croisement chanson et poésie.
Claude Nougaro, voilà. Tout à fait. Alors, il y a plein de détails hein, dans vos souvenirs, la maison de Combotte, etc. Et puis, alors, je veux passer à la seconde partie parce que, bon, bah, parce que le temps passe vite. Alors, c'est « Ma naissance, ton suicide ». Alors là, vous y évoquez le suicide de votre père que vous avez appris, comme vous l'écrivez vous-même, par votre sœur à demi. J'ai beaucoup apprécié, entre guillemets, parce que c'est très imagé, votre sœur à demi, c'était votre demi-sœur, voilà, donc votre sœur à demi. Donc cette,
ça aussi, c'est comme les livres, ça appartient à un autre temps, parce qu'entre-temps, toutes les familles se sont recomposées, etc.
Oui, oui.
Et donc cette situation, situation de bâtardise des années 60, vécue dramatiquement, voire tragiquement par ma mère, etc. Là aussi, une espèce de vieux reste du temps passé, qui ne correspond plus à l'état des choses aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il y a
quelque part, ce livre a servi d'exutoire, vous a aidé à balayer...
Les enfants des familles recomposées avec 23 anniversaires feront leur prose du fils. Bon courage à leur psychanalyste. Mais moi, je dis simplement, je suis très sensible à la question de la date, et en plus, cette date, c'était une fin de cycle, et personne ne le savait, ce qui rend bizarre d'ailleurs d'avoir traité aussi tragiquement une chose qui, au fond, n'était rien.
Oui, enfin bon, il y a quand même du livre empêché, un fragment où vous écrivez, c'est comme une lettre écrite à ce père suicidé, où vous auriez peut-être eu envie de lui dire ces choses-là en vrai, que vous n'avez pas pu.
Le suicide des êtres change des choses. Comme vous avez eu la gentillesse de rappeler les titres, j'avais oublié, mais en gros, c'est ça, Ademic Livre. Cette enfance, ce qu'elle fut, c'est la donnée de chacun, c'est ce qui est donné. Et puis ma naissance, ton suicide, c'est ce qu'on doit transformer de sa donnée initiale. Pour survivre, pour traverser,
survivre,
etc. Donc c'est en ça que ça répond. C'est très tardif, puisqu'elle répond à l'acte de mort quoi, de celui qui a donné la vie sans vouloir la donner. Puis c'est toute la question de la non-reconnaissance du père.
Oui, du père.
Ce sont des questions qui vous accompagnent jusqu'au bout, si j'ai bien compris.
Tout à fait, toute sa vie. Il faut vivre avec, hein, comme on dit. Il faut les apprivoiser et puis vivre avec. Et puis il y a aussi des fragments donc, intitulés « Tu sais », alors une partie et deux parties, où il y a Agathe, ce soleil, comme vous l'appelez, la petite crevette. C'est votre fille. Donc voilà, je suis devenue poète le jour de ta naissance.
Qui était à l'état d'échographie quand j'ai écrit Petite crevette.
Oui.
Parce que ça donnait
ce
sentiment.
Voilà. Et voilà, donc il y a de beaux textes, comme un hymne à votre enfant, à votre fille, à la vie, à l'amour.
À la naissance aussi, donc une autre forme de la naissance.
C'est très beau. Enfin, j'ai beaucoup aimé ces textes donc, qui rendaient hommage hein, à votre fille, un beau cri. C'était un beau cri, parce qu'il y a des cris de douleur dans ce livre, mais il y a aussi des cris de joie.
Disent, voilà, la question de la paternité s'inverse, puisqu'elle
passe
de ce que j'appelle la paternité avec un apostrophe, un privatif, qu'il n'y a pas de paternité à la capacité de finalement en assumer une, du moins en inventer une.
Ben, tout à fait, comme quoi... Il faut, rien n'est perdu
dans
la vie.
Dans le livre suivant, cette sœur aura un frère, je dis, je vais me faire engueuler par son frère.
Ah oui,
qui,
oui.
Qui est censé écouter, voilà.
Ah,
il est toulousain.
Oui, alors
il est toulousain.
Oui, voilà. Alors.
C'est bon, il n'y en a que deux.
On lui dit un petit coucou, alors, voilà, parce qu'on parle d'Agathe, parce que bon, elle est nommée dans ce livre. Ouais. Prose du fils, mais voilà, on fait un petit coucou au fils aussi, quoi.
Il n'avait qu'à naître en même temps que le livre.
Alors donc tout votre ressenti donc voilà dans ce livre Yves donc un beau livre que moi j'ai vraiment beaucoup aimé même s'il m'a surprise dans un premier temps et puis on va malheureusement le temps passe tellement vite donc c'est Prose du fils aux éditions de la Table Ronde je le rappelle c'est un peu comme je l'ai dit ça a été un peu un accouchement difficile un exutoire mais une sorte de thérapie aussi avec les mots
mais l'accouchement, avec vos c'est mots. Juste une espèce d'accouchement de soi oui, l'écriture ce que Montaigne appelait je suis moi-même la matière de mon livre à tous les sens du mot matière
c'est un livre qui a été nécessaire à votre vie
Les livres s'ils sont pas nécessaires il faut pas les faire
et donc votre fille l'a lu Agathe votre fille
est-ce qu'elle
l'a lu
elle a lu certains des suivants et tout ça. Ouais, ouais.
Et vous auriez aimé
plus tard, quoi.
Bah oui, oui, bien sûr.
Un léger différé, mais.
Et vous auriez aimé que votre père le lise s'il avait.
Eh bien, c'était un. D'ailleurs, les livres, Baudelaire disait volontiers, je n'écrirai que pour les morts.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est cité dans votre.
Donc, c'est une lettre qui prend son temps pour arriver à quelqu'un qui est mort au moment où elle lui arrive. Quoi. Mais c'est, ça, c'est une bonne définition de la littérature.
Oui.
Ça sert à ça. Mais ça sert à ça.
Ça sert à ça.
Ça sert à ça, à parler.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Yves, d'être venu nous parler de ces proses du fils aux éditions de la Table Ronde. Yves Charnay, donc je vous conseille vivement de lire ces textes, ces très beaux textes, parce que c'est vraiment écrit superbement. Hein. Je veux dire, c'est les mots, voilà, c'est puissant, quoi, c'est fort, quoi, comme on dit.
Merci
donc, et c'est tellement aussi humain, hein, finalement, c'est humain et plein de sensibilité. Hein, comme je disais, c'est la vie, c'est l'histoire d'une vie hein, aussi. C'est la vie aussi
censé,
en elle-même,
ouais,
hein, avec ses coups durs.
Le suivant s'appelle Rien la vie, c'est censé dire ça. Ouais, tout à fait.
Oui, aussi. Ouais. Mmh. Alors la semaine prochaine, comme je disais, je recevrai Jean-Antoine Loiseau qui nous présentera comme chaque année le programme, le riche programme de ces 12e rencontres du livre et du vin de Balma qui auront lieu les 15, 16 et 17 avril prochain. Et puis, on se quitte avec un petit clin d'œil, Yves Charnay. Alors, La vie en rose d'Édith Piaf, vous en parlez dans ce livre, vous l'aimez cette chanson. Elle est d'ailleurs magnifique et puis Édith Piaf est superbe aussi et éternelle. Donc, on se quitte avec La vie en rose. Merci Yves.
C'est moi, merci Claire.
Adicias.
Un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche. De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Alors je sens dans moi mon cœur qui...